Bonjour, c'est José, ou Hans Yogananda. Cette vidéo n'est pas un satsang, c'est un texte que j'ai écrit, auquel j'ai réfléchi, qui m'a demandé des recherches bibliographiques un peu longues et poussées. Si ce texte n'est pas long, le travail pour l'écrire a été un petit peu fouillé, manière à ce que je n'écrive pas n'importe quoi. Donc ce texte, son titre, c'est « La vraie prière du Christ ». Autrement dit, quelle prière pratiquait Jésus ? Et sûrement pas le Notre Père, hein ? Bon, voilà. Un petit peu de musique. Jean-Sébastien Bach, ça mange pas de pain. Ça va bien avec le sujet. Alors, je commence un peu ardemment. Pourquoi, donc je vais apporter un complément, pourquoi quand Jésus allait prier, ne voulait-il pas, je rejoins mon texte, voilà. Pourquoi quand Jésus allait prier, ne voulait-il pas que d'autres viennent avec lui ? Toujours, vous verrez dans les évangiles, quand Jésus allait prier, il saluait ses apôtres, ses disciples, ses suiveurs, et il allait s'enfoncer dans la garrigue, à un endroit hors de vue, pour prier. Eh bien, parce que la prière que Jésus pratiquait n'était pas celle que l'on croit. Voici une citation d'un évangile. Ouvrez les guillemets. Jésus était un jour quelque part en prière. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Fermez les guillemets. Évangile selon Luc, chapitre 11, verset 1. Quand il parle de Jean, le disciple, il parle de Jean le Baptiste, pas de Jean le disciple de Jésus. Ah ben, je l'ai écrit justement. Le Jean dont il est question ici est le Baptiste. Il avait appris à ses disciples à prier. D'ailleurs, il existe toujours à l'heure actuelle des disciples de Jean le Baptiste qui considèrent Jésus comme un faux prophète. Ça s'appelle les Mandéens. Est-ce bien nécessaire d'apprendre à prier ? Les mentions de la prière de Jésus, à l'écart ou la nuit, laissent deviner l'importance de ces temps, le temps de la prière, où il est avec le Père. C'est particulièrement remarquable avec la Passion. Ouvrez les guillemets, arrivé sur place, Jésus leur dit « Priez pour ne pas tomber au pouvoir de la tentation. » Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 40. Ouvrez les guillemets, « Quand, après cette prière, il se releva et vint vers les disciples, il les trouva endormis de tristesse. » Fermez les guillemets. Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 45. Il leur dit, « Quoi, vous dormez ? Levez-vous et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. » Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 46. Pourquoi le Christ allait-il se cacher pour prier ? Comment faisait-il pour prier toute la nuit parfois ? Récitait-il le Notre Père des centaines de fois comme on récite un mantra ? Ou la prière que Jésus pratiquait était-elle d'une toute autre nature que ce que l'on croit depuis le temps d'Irénée, évêque de Lyon, inventeur des quatre évangiles canoniques. Il les a pas écrites, hein, ou écrit, je ne sais plus si c'est masculin ou féminin. Un évangile, il ne les a pas rédigés, les évangiles, les quatre évangiles canoniques. Simplement, il a choisi parmi peut-être une dizaine d'évangiles, hein, quatre, pour représenter les quatre points cardinaux qui soient dans la ligne du parti, comme diraient les communistes dans les années 70 ou 60. Là, en l'occurrence, il s'agit dans les lignées de l'Église romaine et apostolique. Alors que d'autres évangiles, tout aussi légitimes, selon Thomas, selon Myriam de Magdala, selon Jacques, etc., d'autres évangiles dits maintenant apocryphes n'ont pas été choisis. Et si cette vision de la prière était complètement erronée, est basée... Ah, c'est une question. Je vois le point d'interrogation à la fin de cette longue phrase. Alors je le reprends avec le ton interrogatif. Et si cette vision de la prière était complètement erronée, est basée sur une faute de traduction des évangiles originaux, hein, en même temps que d'un éloignement des vrais enseignements délivrés par le Christ. Alors, c'est une bonne question, je me remercie de l'avoir posée. Et si cette vision de la prière depuis les temps d'Irénée, depuis les débuts du christianisme, était faux, et cette vision était fausse parce que il y aurait eu une erreur de traduction des textes originaux des évangiles. Étude étymologique de prier, du verbe prier. Jésus, pour dire prière, se servait de l'araméen populaire, parler. Il y a l'araméen littéraire et il y a l'araméen populaire, parler. Comme il y a l'arabe classique et l'arabe dialectal au Maroc ou en Algérie. C'est pareil. Il y avait dans l'araméen plusieurs araméens, dont le populaire parlait. Et quand Jésus parlait, ben, il parlait en araméen, ben, sans doute en hébreu et sans doute en grec aussi, hein, parce que cette terre, à l'époque, était une terre très, très partagée. Elle faisait partie de l'Empire romain et il y avait beaucoup d'influence, dont l'influence perse, qui se servait d'araméen aussi. Jésus, pour dire la prière, se servait de l'araméen populaire parlé. Pour dire prière, il disait shlota. Ça s'écrit slota, S-L-O-T-A, et ça se prononce shlosa. Les évangiles ont écrit posefie. Ça s'écrit E-U-S-E-V-E-I-S, E-Z-V-I-S, et ça se prononce posefie. C'est du grec. Et les traducteurs, pour transcrire les évangiles, sont partis du latin, precarius, dérivé de précari. Précari, implorer, demander. Qui viendrait de, etc., etc., etc. C'est facile à trouver, hein, toute cette cascade habituelle de différentes origines pour finir comme origine, comme racine de l'origine du mot prière par le sanskrit védique . Alors je ne sais pas le prononcer, je sais le traduire, mais je ne sais pas le prononcer, je n'ai pas appris à le parler, j'ai appris à le traduire, à connaître sa grammaire et son vocabulaire, il y a des dictionnaires. Ça s'écrit P-R-C-C-H-I-A. P-R-2-C-H-Y-A. Priya. Pshia. Je ne sais pas prononcer le sanskrit védique. Ça veut dire demander. Et P-R-2-C-H-A-T-I. Demande. Une demande. En passant par l'indo-européen, prak. Prec. Donc, a priori, l'étymologie donnerait raison aux habitudes chrétiennes de prier en demandant quelque chose. « Seigneur, je te prie pour te demander la rémission des péchés du monde » ou pour « je te prie pour te demander de gagner au loto hein. ». Donc là, c'est cette étymologie officielle du mot « prier » donnerait raison au sens qu'Irénée donnait, entre autres personnes, donnait au mot « prier » que l'on donne toujours, qui est « supplique », faire une supplique, demander quelque chose à Dieu. Donc, a priori, l'étymologie donnerait raison aux habitudes chrétiennes de prier en demandant quelque chose à Dieu, comme un enfant récite sa liste de souhaits au Père Noël. La prière silencieuse. Ouvrez les guillemets. Il y a beaucoup de bruit discordant. Fais silence et entends la perfection du souffle. Fermez les guillemets. Bhakti Marga, livre 1, chapitre 1, verset 25. Il faut quand même mentionner qu'il existe une autre prière chrétienne plus proche de la vérité christique, l'oraison. L'oraison est dite prière silencieuse et des moines la pratiquent parfois des nuits entières. L'ordre monastique du Carmel pratique l'oraison 2 heures chaque jour. Voilà. Quelque chose que l'on pratique silencieusement et qui dure 2 heures chaque jour, moi ça me rappelle terriblement quelque chose, hein. Vous voyez où je veux en venir? Non, ça me rappelle la méditation. Après tout, la définition couramment admise par les mystiques chrétiens de la prière est la suivante. 2 points, ouvrez les guillemets, élévation de l'esprit vers Dieu. C'est aussi la méditation. D'élever son esprit, alors esprit dans le sens de spiritus, c'est-à-dire dans le sens de âme, pas dans le sens de mental. Ce qui nous rapproche encore de ce qu'était la vraie prière pratiquée par le Christ, seul, caché, loin de tout témoin, même de ses apôtres, qui n'étaient pas tous ses disciples, qui ne connaissaient pas tous la prière que le Christ pratiquait. Seuls ses disciples, qu'il avait initiés, connaissaient sa prière, comme Marie-Madeleine, comme Jean, comme Jacques, etc. Etc. parce que je n'ai pas la liste par cœur de ceux qui avaient reçu la révélation des mains du Christ. Ceux ayant reçu la révélation ou baptême dans l'Esprit Saint et dans le feu, c'est-à-dire le Saint-Nom et la Lumière. Oui, ces disciples, entre parenthèses, j'ai mis que c'était ceux qui avaient reçu la révélation ou, comme disait Jean le Baptiste, le baptême dans l'Esprit Saint et dans le feu, c'est-à-dire dans le Saint-Nom, l'Esprit Saint, et la lumière, le feu. Souvenez-vous que la voix a 4 techniques de méditation, celle dite du Saint-Nom, celle dite de la lumière, celle dite de la musique et celle dite du nectar, de la musique ou du son. Béni. La prière faisait de celui qui priait quelqu'un de béni. Béni, selon l'étymologie, vient du grec makarios, mot traditionnellement traduit en français par « béni » ou « heureux », dont une traduction pleinement littérale serait « qui possède une joie intérieure incapable d'être affectée par les circonstances qui l'entourent ». Donc quelqu'un de béni serait quelqu'un qui possède une joie intérieure incapable d'être affectée par les circonstances qui l'entourent. Ça nous ramène décidément beaucoup aux spiritualités asiatiques indiennes. Cette définition ressemble à celle d'un éveillé, ayant la juste vue, la conscience chère aux bouddhistes et aux pratiquants des 3 piliers de la voie. Alors, j'ai fait une faute, c'est différent. Et aux pratiquants, puisqu'il y a des pratiquants, je vais mettre un N et un T à la fin de qui pratique. Voilà, le service dans toute la journée, c'est-à-dire agissant dans le vrai détachement et en pleine conscience de l'un. L'un pour dire Dieu ou le Tao. Alors, excusez-moi, je suis en train de faire une vérification parce que j'ai vu quelque chose qui m'a déplu sur le texte original. Ouais, bon, c'est vrai que c'est un petit peu étrange. Donc ce que je vais faire, excusez-moi, hein, je fais rapidement, je vais faire plutôt comme ça, voilà, copier, supprimer, ajouter, texte, coller, je fais ma petite cuisine, hein, ne m'envoyez pas, il n'y en a pas pour longtemps, c'est fini, voilà. Je vérifie que ce que je viens de faire a été bien fait, aperçu, voilà, bon, c'est fait. Alors, l'erreur de traduction originelle, c'est là où on rentre dans le vif du sujet. Et si tout cela venait d'une confusion dans la traduction des textes originaux des évangiles écrits en grec ancien, avec les origines des mots du sanskrit en persan, puis en grec et en latin, pour finir dans nos langues modernes, français, anglais, allemand, etc., les erreurs de bonne foi ont été nombreuses. Il n'y a pas que des erreurs volontaires dues à une manipulation pour faire entrer la parole du Christ, son enseignement, dans les limites de la christianité, je dirais, du christianisme. Il y a aussi des erreurs de bonne foi de traduction. Vous vous rendez compte, partir de l'araméen, du grec, en passant par le latin et le français, l'allemand, etc., des erreurs peuvent être faites. Surtout par des traducteurs qui n'ont pas connu Jésus. Même au tout début du christianisme, hein, peu de gens avaient connu Jésus. Il existe en sanskrit védique, qui est comme le latin une langue morte, deux mots très voisins et qui se ressemblent beaucoup. Alors, je ne peux encore une fois pas le prononcer parce que je n'ai encore une fois pas entendu de locuteur sanskrit le parler. Dans les ashrams que j'ai connus en Inde, on connaît quelques mots sanskrit que je connais par cœur. Hein. Mais je connais pas, on ne parlait pas le sanskrit, on parlait l'hindi ou l'anglais. Mais le sanskrit, on ne le parlait pas. Donc quelques mots que je connais comme ça. Mais comme Bhakti, comme tout le monde, hein. Tout le monde connaît des mots sanskrits, mais là, je ne sais pas le prononcer. Ces deux mots qui se ressemblent beaucoup, c'est PRKTA, accent grave, PRKTA, PRKTA, je ne sais pas le prononcer, qui veut dire mis en contact avec, ou mêlé, unir, et PRCCHYA, comme tout à l'heure, hein, qui veut dire demander. Donc l'un des mots très proches en prononciation et en orthographe, parce que c'est pas écrit par ces lettres-là, hein, c'est écrit avec des espèces de signes de sanskrit qu'on ne peut pas lire. Hein. Là, on a écrit ça dans notre alphabet. Hein. Donc il y a d'un côté PRKTA, mise en contact avec, mêler, mélanger, unir, et de l'autre côté on a PRCCHYA qui veut dire demander. Les traducteurs des évangiles auraient pris comme racine le mot PRCCHYA, demander, en lieu et place de PRKTA, accent grave. Ainsi, mis en contact avec, mêler, unir, serait devenu demander. En partant de cette racine fausse, le mot prier et sa cascade lexicale auraient donné un sens faux. Prier ne voudrait pas dire demander, mais prier devrait dire s'unir. Comme yoga. Bon, avant, le yoga ne signifiait pas union. S'unir. Avant Adi Shankara, un moine sannyasine, avant le mot yoga voulait dire plusieurs choses. Il voulait dire repos et il voulait dire liberté. Ensuite, il est devenu union. On peut prier avec des mots aussi et on peut demander. C'est pas interdit non plus. Hein. La méditation, l'union intérieure par la méditation profonde, n'empêche pas de parler dans sa tête ou à haute voix le soir au pied de son lit et de prier Dieu et de lui demander des choses. c'est pas interdit. Hein. Pour autant, rien n'interdit de prier avec des mots. Jésus-Christ, Dieu, Marie ou les saints, ni de leur demander des grâces et ou faveurs. L'union mystique ne remplace ni n'interdit la prière parlée. Quand on aime, on fait comme on veut. Donc Jésus-Christ pratiquait la méditation. Voilà. Hein. Comme celle de la voix, entre autres. Quand il allait méditer des nuits entières pour s'unir à son Père qui était en lui. Rappelez-vous des paroles qu'il a dites, « Je suis dans mon Père et mon Père est en moi ». Cela expliquerait bien des choses, par exemple qu'il soit nécessaire d'apprendre à prier, et cette exhortation « Quoi, vous dormez, levez-vous et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation » qui voulait dire « Méditez pour rester hors des raies, hors des cordes, pour méditer, pour rester hors des raies du faux ego et de ses tentations dans le non-agir, le service. La voie donne les moyens de pratiquer la prière comme l'a pratiqué le Christ. Puisque nos techniques de méditation, nous en sommes absolument convaincus, sont les mêmes que celles que Jésus révélait, que celles que Bouddha révélait, que celles que Lao Tzu révélait. Il s'agit toujours de la même voie, de la même sadhana. Dans des pays différents, dans des langues différentes, à des époques différentes. Et comme Jésus l'enseigna, hein, cette prière silencieuse, cette méditation, à quelques-uns de ses suiveurs qui devinrent ses disciples, comme Judas, Marie-Madeleine, Thomas et autres. Alors, j'ai mis un petit nota bene en bas de ce texte, je vais vous le lire. Les évangélistes se sont servis du grec antique pour dire prière et le grec n'avait aucune origine commune avec l'araméen. Les scripteurs français pour écrire prière se sont servis des versions latines. Il faut donc, pour étudier l'étymologie du mot prière, partir du latin. Les racines grecques sont différentes encore. Jésus parlait l'araméen, langue d'origine sémite, n'ayant aucune parenté avec l'indo-européen, et par là même avec le sanskrit védique. Il ne parlait pas ou très peu le grec antique, langue pourtant parlée par les élites juives de l'époque. Les évangiles, sauf une, ont été écrites en grec, langue ayant une connexion avec l'indo-européen, qui se sépare d'un côté vers l'indo-iranien, en direction du sanskrit védique, via l'indo-arien, et de l'autre côté vers l'hellénique. Les choses ne sont pas si simples. Ces différentes langues ont subi de forts métissages dans l'Empire perse à partir du 4e siècle avant notre ère, quand il couvrait une surface allant de la Turquie orientale aux rives de l'Indus en Inde, le Pakistan actuel, en passant par l'Irak, la Palestine, etc. À l'époque, on parlait l'araméen de l'Égypte au Pakistan en passant par l'Asie mineure. L'Empire perse se servait de l'écriture araméenne pour écrire des mots persans d'origine indo-européenne. Vous avez bien entendu, il se servait de l'araméen pour écrire des mots persans qui étaient d'origine indo-européenne, alors que l'araméen, langue sémitique, n'a pas d'origine indo-européenne. Toute langue, même morte, a subi des influences diverses. Les mots de la langue française n'ont pas tous la même origine. Certains nous viennent du latin, d'autres du grec, d'autres encore du franc, du saxon, de l'arabe et maintenant de l'américain. Avant d'être mortes, les langues étaient vivantes et subissaient des influences diverses. L'étymologie est comme une enquête policière et sujette à caution. Plus on remonte loin dans le temps et plus les preuves entre guillemets sont discutables et discutées. Voilà, j'ai fini cette lecture de ce texte un petit peu compliqué qui s'appelle « La vraie prière de Christ ». Alors, vous pouvez la trouver... Excusez-moi, je cherche l'adresse de ce texte sur le blog. Alors, pour ceux que ça intéresse, www.yoga-6originel.fr/ la-vraie-prière-du-Christ. Merci d'avoir été là. Je vous salue. amicalement et vous souhaite le meilleur. Au revoir.